le plat du jour.
Le menu oblige.
Ah, faut que tu couches ça. Délicieux.
Mmh.
Oh, ce soir.
Ce soir, prendre sa main.
Blue Valentine.
Une étude révélée aujourd'hui qui nous assure que la nourriture et les petits repas en tête-à-tête sont le ciment des couples qui durent. Et ce n'est pas en ce jour de Saint-Valentin qu'on dira le contraire, un jour où en général les restaurateurs voient défiler des légions de tourtereaux affamés.
Pour la Saint-Valentin, on a aménagé un menu, un tartare de poisson, du très beau saumon sauvage d'Écosse, surmonté de quelques Saint-Jacques marinés avec une petite pointe de caviar, et cette assiette sera présentée en forme de cœur.
Valentine.
Et elle fondrait.
Blue.
Oh, ce soir.
Elle contre lui. Ou ses lèvres.
Sur mon calendrier, à la date du 14 février, je vois Saint-Valentin. Saint-Valentin, la fête des amoureux, mais aussi accessoirement la fête des fleuristes, la fête des chocolatiers, la fête des restaurateurs. C'est même à se demander si le commerce du cœur ne manque désormais pas un peu de sentiment. Promis, on va essayer aujourd'hui de passer Cupidon sur le grill sans arrière-pensée cupide. Bonjour à tous, bonjour à tous les tourtereaux qui sont peut-être encore sous la couette. Le menu du jour, la cuisine de l'amour. On va mélanger chair, A-I-R, et chair, E accent grave R-E. On va explorer les marmites des Asiatiques qui ont développé comme personne la cuisine de la sensualité, voire la cuisine de l'érotisme, avec Maït Foulkes. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu spécialement à nous depuis Londres. Vous avez fait le voyage. Vous avez attrapé d'ailleurs le virus de la bougeotte, puisque vous avez visité 45 pays et vous avez un tropisme certain pour l'Asie. C'est ce qu'on va voir ensemble. Vous avez littéralement écumé ce continent pour les éditions Philippe Piquier. Vous avez écrit à ce jour une quinzaine d'ouvrages, c'est ça, sur le sujet?
Oui, absolument, oui.
Et votre dernier livre, La cuisine asiatique, un charmant petit opus, toujours aux éditions Philippe
Piquier. La cuisine aphrodisiaque.
La cuisine aphrodisiaque. Vous êtes assez fidèle à cet éditeur, hein? On aime beaucoup, qui est charmant.
Oui, c'est un ami aussi. Il est devenu un ami au fil des années et j'aime beaucoup sa passion pour l'Asie. C'est vraiment un éditeur qui a préféré ne pas s'agrandir trop au détriment des œuvres qu'il il a toujours un coup de cœur pour tout ce qu'il publie.
Et qu'il n'est pas à Paris d'ailleurs, hein?
Non, il est à Arles.
Il est à Arles, absolument. Et on y trouve effectivement des textes érudits, des recettes évidemment, des notions sur la pharmacopée chinoise, indienne. On va voir cela avec vous, Elvira Masson, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors vous, ce serait plutôt un grog qu'il vous faudrait pour venir à bout de votre sinusite.
C'est plutôt la Saint-Valentin pour moi.
Oui, c'est la Saint-Valentin, oui, c'est ça. Mais vous donnez quand même, vous avez fait un effort, Elvira, dans le courrier du cœur.
Oui, dans la presse, évidemment, études et conseils plus ou moins étranges pour fêter la Saint-Valentin, à table ou au lit d'ailleurs.
Avec des chiffres assez croustillants.
Oui, quelques chiffres. Ouais.
C'est assez rigolo, ouais. J'ai hâte de découvrir ça plus avant, pas de Dominique Hutin aujourd'hui. Notre monsieur vin est de retour dès la semaine prochaine, mais il nous a quand même réservé une petite surprise qu'on va humer, voire goûter tout à l'heure. Cuisiner en couple, un menu de Saint-Valentin dans une école de cuisine, c'est l'expérience voluptueuse à laquelle s'est livrée Lenora Krief. On découvrira son reportage dans le courant de cette émission. Émission qui est cuisinée avec amour et en direct, accessoirement, aujourd'hui, par Michel Biou, Pierre-Yves de Rolin, Gaël Braouezek, Nadia Chougui. Djoubaka s'est chargé de la programmation musicale. Vous pouvez réagir à la maison sur notre mail. On va déguster à radiofrance.com, sur Twitter aussi, avec le hashtag On va déguster. Juste avant de mettre le feu à nos casseroles avec Maït Foulkes, nos actus de la semaine, c'est la tournée des popotes.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, On va déguster.
On commence avec Elvira, en douceur, et une douceur que vous nous avez apportée, quelle générosité.
Qu'on a déjà entamée, et une douceur...
Non mais disons-le, démente.
Démente.
Ouais, démente. Ouais. Et d'ailleurs, derrière la vitre de ce studio, on est carrément d'accord.
Et c'est une douceur qui est indissociable de la ville dont il est originaire. Si vous habitez la Baule ou si vous y passez vos vacances, ne perdez pas trop de temps à m'écouter, parce que je vais rien vous apprendre. Il s'agit du fondant baulois.
Ah!
Un gâteau au chocolat, fondant donc, mais alors complètement addictif, comme vous le disiez,
François-Régis. Et complètement fondant, ça on est quand même assez d'accord.
C'est incroyable.
Je serais curieux de connaître la proportion de beurre.
Je ne la connais pas parce que la recette est secrète, mais je pense que...
Vaut mieux s'abstenir de la connaître, ouais.
Je pense que dans une part de fondant, il doit y avoir quelque chose comme 200 grammes de beurre. On est pas loin de ça, je pense. Mm-hmm. Alors, c'est un gâteau qui n'est pas très ancien. Il était fabriqué dans les années 70 par un épicier traiteur de La Baule. Il est devenu une marque que commercialise une entreprise toujours artisanale à La Baule, toujours. Entreprise créée par un couple dont la femme, Marie-Sophie Boulier, mangeait ce gâteau quand elle était enfant. Donc, elle est vraiment tombée dedans, comme nous, on tombe dedans à l'instant.
Ouais.
Et elle est tombée amoureuse de cette recette. Elle a déposé la marque et on a fait le seul vrai fondant baulois. On le reconnaît à son petit écusson rouge.
Oui.
Vous allez me dire, alors c'est qu'un gâteau au chocolat, il n'y a pas de quoi écrire à la famille. Un fondant au chocolat, on sait tous le faire, mais on a goûté et la texture est parfaite.
D'ailleurs, on va demander à notre invité, est-ce que vous avez aimé Maïtfoulx, ce fondant baulois ?
Oui, beaucoup, beaucoup. Moi aussi, j'ai un peu de sinusite, mais ça a percé les brumes de la densité en cacao.
Oui,
est fantastique.
La frontière est très cacao.
Je le verrais bien avec une petite crème anglaise, à la cardamome, je
pense. Ça serait bien.
Pour la Saint-Valentin.
Bonne idée, on va parler cardamome dans un instant.
Du cacao, des œufs frais, du beurre, de la fleur de sel de Guérande, de la farine de froment. Pas beaucoup de farine à mon avis, très peu. Hein. Et un peu de sucre de canne, point. Je n'en sais pas plus sur la recette.
Il y a quand même une petite carapasse claire, une petite croûte comme
oui,
ça, qui fait comme une
espèce de givre. La texture est légèrement
meringuée, oui.
Mais je ne sais pas comment elle est confectionnée. On n'a pas l'information. La recette est secrète. Alors avant, il fallait aller à La Baule ou passer ses vacances là-bas. Maintenant, on peut l'acheter en ligne.
Ah, c'est ça la nouveauté.
On le trouve sur le site de la Grande Épicerie de Paris et également sur lefondantbaulois.com.
Lefondantbaulois.com, est-ce qu'on peut avoir un prix pour ce
Le format que je vous ai apporté, un 3-4 personnes, coûte entre 10 et 11 euros. Il existe également un format cœur pour la Saint-Valentin, mais ils étaient en rupture de stock.
D'accord, on peut dire que c'est raisonnable ou pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, enfin, on peut se dire que faire un fondant au chocolat à la maison, c'est faisable aussi. Bon, pour arriver à ce niveau-là, il faut quand même se lever de bonheur.
Il est absolument extraordinaire, c'est une révélation, je ne l'avais personnellement jamais goûté. Le fondant baulois. Merci beaucoup Elvira. La semaine dernière, souvenez-vous, on faisait un petit tour de France, des relais routiers. On a dégusté de généreuses spécialités avec nos invités, des spécialités maison, dans des menus tout compris autour des 12-13 euros. Nous sommes allés notamment au relais des Fumades à Orgon, dans les Bouches-du-Rhône, au relais Saint-Sauveur en Normandie. Autant de très belles adresses généreuses. Eh bien, j'ai poursuivi, après l'émission, cette semaine, mon exploration de ce genre gastronomique, la cuisine routière. J'ai mis ma fourchette sur un nouveau relais routier. Pas besoin de poids lourd, de fourgonnette, d'estafette, ni même de voiture pour s'y rendre. J'y suis allé avec mes jambes. Et pour cause, c'est à 1,5 km de notre maison ronde, de la maison de la radio, ce nouveau relais routier, dans le 16e arrondissement, à l'ombre du palais de Tokyo, rue de la Manutention. Vous la connaissez cette rue parisienne ? Rue de la Manutention.
Oui, c'est une rue avec des marches, voilà. Une rue un peu en...
Et pour cause, le restaurant s'appelle Les Marches. Oui. Et c'est vraiment l'une des rues les plus charmantes, avec un cachet champêtre. Il y a des... Tout le long de cette rue, il y a notamment des petits jardins potagers. Il y a même quelqu'un qui a des poules, qui élève des poules. D'ailleurs, le chef rêve d'aller prendre ses œufs là-bas. Et il y a un restaurant qui s'appelle donc Les Marches. Il y a le fameux logo rouge et bleu des relais routiers. Vous entrez et vous voilà plongé dans une espèce de Paris populaire à la Douaneau, avec des nappes à carreaux, des stucs jaunis, les belles banquettes bien moelleuses, une impressionnante collection de menus anciens au mur, car le patron est collectionneur de menus anciens et ça part dans tous les sens. Une clientèle assez bigarrée, ça va du petit couple d'octogénaires assez touchant du quartier, jusqu'aux touristes anglais qui trépigne à l'idée de s'avaler un pâté en croûte, des œufs en murette ou de la tête de veau sauce grébiche. Et tout en haut de la carte, il y a marqué « Halte chez un routier ». Une halte chez un routier, c'est l'assurance d'un repas peu coûteux. Alors, la définition de peu coûteux, comment vous dire ? C'est un peu tout le problème. En région, on est, comme je vous l'ai dit, dans un relais routier, dans une fourchette entre 12 et 14 euros pour un menu complet, parfois même avec le vin inclus. Ici, à l'ombre de la Tour Eiffel, il faut fatalement rajouter une petite poignée de pièces. En semaine, 18 euros pour une formule entrée plat à la carte, en semaine seulement, du lundi au vendredi. Sinon, à la carte, notamment le week-end, il faut compter une trentaine d'euros pour une entrée, un plat et un dessert, mais on va dire que c'est une addition raisonnable. En entrée, j'ai pris des œufs maillots. Deux œufs maillots, 5 euros, coupés en deux, avec un jaune, bien jaune, vous savez, encore un peu crémeux, pas trop cuit, pas trop soufré. Vraiment très bien, donc souple en bouche, une belle mayonnaise.
Maison ?
Bravo, mayonnaise maison, quelques pousses de mâche, une tranche de tomate, aïe. Alors, la tranche de tomate, pas indispensable, hein, la tranche de tomate en cette saison. Mais bon, c'était de très bons œufs maillots. En plat, des rognons de veau, mais alors une noix entière, à la cuisson parfaitement rosée, avec une sauce bien crémée, à la moutarde de...
Dijon.
Bravo, avec des frites.
Maison.
Bravo, mais pas des frites en fait. Elles sont maison, mais c'était plus en fait des pommes allumettes, très croustillantes. Mais c'est bien les frites maison, bravo. En dessert, une île flottante, bien généreuse, avec une délicieuse crème anglaise.
Bon, maison, j'imagine.
Eh ben oui, maison. Et très très bonne, avec les petits points noirs de la vanille. Le tout saupoudré de praline rose, comme on le fait souvent à...
Montargis. À Lyon.
Oui, Montargis aussi, vous avez raison. Mais à Lyon, c'est vrai. Je parlais de ma ville natale. La praline rose, très très belles îles flottantes, à l'ancienne. Parfait, tout ce qu'on aime. Bon esprit, bon accueil, bonne popote sur les nappes à carreaux, addition modérée, je l'ai dit. Les Marches, c'est la nouvelle adresse des frères Dumont. Et c'est 5 rue de la Manutention, Paris 16e. Et bonne nouvelle, comme bien souvent chez les restaurants routiers, c'est ouvert 7 jours sur 7. Vous connaissez la tradition, vous y allez et vous leur passez le bonjour de la part d'On va déguster. Vous la reconnaissez forcément, cette voix, c'est le retour de Rokia Traoré avec le titre « Il est » aujourd'hui, dimanche 14 février. Nous sommes en direct et nous fêtons la Saint-Valentin avec la cuisinière Maïte Foulkes, petit voyage en Asie.
Si un homme moue des graines ou des racines de Trapa bispinosa, de cassourica, de jasmin toscan et de réglisse, avec du chiracapoli, sorte d'oignon, et met la poudre dans du lait mêlé de sucre et de ghee. Puis, après avoir fait bouillir tout ce mélange sur un feu modéré, boit le sirop ainsi formé, il sera en mesure de jouir d'une quantité innombrable de femmes. Mêlez ensemble du ghee, du sucre et de la réglisse en égale quantité, puis du suc de fenouil et du lait. Cette composition nectarienne est réputée sainte, précieuse pour la vigueur sexuelle, préservatrice de la vie et agréable au goût. Les Kamasutras, chapitre de la séduction des cœurs et des médecines toniques.
Le Kamasutra, ce fameux recueil indien. Alors c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, on a souvent réduit ce livre, cette œuvre, à la position du lotus, à la fente du bambou, à la pose d'un clou, à la position de l'arc-en-ciel, il y en a 64. Mais c'est vrai que le Kamasutra n'est pas qu'un manuel de gymnastique sexuelle, Mindfulness.
Non, pas du tout. Et autre détail, il n'a jamais été illustré avant le XVIe siècle. Hein. Donc le fait de croire que c'était au départ un recueil illustré de positions, ça n'est pas ça du tout.
Alors il y a évidemment, ça tire toutes les ficelles du plaisir,
compris les ficelles du plaisir.
Sexe, mais ça ne se limite pas à ça.
Non, parce que le Kama, disons pour simplifier, d'après ce traité sanskrit, donc qui a été composé dans les premiers siècles après Jésus-Christ par un certain Vatsyayana.
Bravo.
L'homme doit viser trois choses. Le dharma, qui est le mérite religieux, artha, qui est la possession des richesses, la propriété, et kama, qui est la jouissance d'objets appropriés par les cinq sens.
D'accord.
Donc en fait, les positions, par exemple les fameuses 64 positions, n'occupent qu'un des sept livres du Kama Sutra. Le reste des livres est consacré autant au jeu de l'amour qu'à la musique, à la nourriture, au parfum, à toutes les façons en fait de jouir des cinq sens. Et il y a tout un chapitre sur la cuisine et les ingrédients qui peuvent favoriser l'amour, donc les aphrodisiaques.
Des potions, des recettes de potions, des produits aphrodisiaques effectivement et fortifiants, on en entendait un exemple. Alors, refaisons peut-être un peu l'inventaire de ce que l'on entendait dans cet extrait lu, vous l'avez sans doute reconnu par notre confrère Dorothée Barba. Guy, pour commencer. Guy, c'est vrai que ça nous dit pas forcément grand-chose.
C'est du beurre clarifié. Tout simplement, c'est la matière grasse de prédilection des Indiens pour cuisiner, qui est aussi considérée comme avoir des pouvoirs extrêmement fortifiants. Et les lutteurs indiens en consomment énormément. Mm-hmm. Mais bon, ça n'est autre que du beurre fortifié, donc extrêmement facile.
Clarifié, extrêmement facile à faire chez soi.
Ou bien, vous pouvez l'acheter en pot dans les épiceries indiennes. Le principe, c'est que le beurre est cuit plusieurs minutes pour que toutes les impuretés remontent à la surface et brûlent. Et donc, il ne reste plus qu'une espèce de graisse très dorée qu'on peut utiliser après comme de l'huile, ne brûle plus.
C'est ça, l'avantage du beurre clarifié, j'allais dire fortifié moi aussi. Remarquez, il est fortifiant, mais ce beurre clarifié, justement, le mérite de ce beurre, c'est de ne pas brûler dans la poêle. Et quand on veut, par exemple, snacker dans une poêle des coquilles Saint-Jacques au hasard, eh bien, on ne se retrouve pas avec ces petits points noirs qui sont en général de la caséine qui est devenue carbonisée.
Et on peut le conserver quelque temps.
Oui.
Il faut qu'il est clarifié, on peut le garder au réfrigérateur.
Oui, voilà.
Et vous nous confirmez, Mindful, que selon l'art de vivre ayurvédique, qui est ce style de diététique indienne, il faut manger beaucoup de mets riches et nourrissants, dont, effectivement, on a parlé du ghee, ce beurre clarifié, mais également du lait, du yaourt, des œufs, des fruits secs.
Oui, c'est le principe de l'Ayurveda, qui est donc la science de la vie indienne, le système médical, c'est prévenir plutôt que guérir. Donc à une époque où certaines personnes avaient des alimentations assez carencées, le principe de bon sens, c'est simplement commencer par l'alimentation pour se fortifier, être en bonne santé, ce qui permet dans ce cas-là les jeux de l'amour comme d'autres activités. Donc on ne peut pas considérer, quand on nous parle des œufs et du lait comme aphrodisiaque, on peut rigoler, mais bon, il y a une logique derrière tout ça, si on n'est pas en forme, si on ne mange pas assez de protéines. Et on ne risque pas de
absolument
grande performance.
Restons au chapitre justement des produits laitiers à l'indienne avec une recette qui m'a fait de l'œil. Quand on a préparé cette émission, je vous ai demandé si vous pouviez nous l'expliquer. C'est un lapin au yaourt et aux amandes. On peut être derrière son poste éventuellement un peu effrayé par la viande de lapin. Les lapinous qu'on mange de moins en moins et les enfants, c'est assez compliqué de leur faire désormais manger du lapin. Cette recette, disons-le tout de suite, on peut substituer le lapin
par soit des cubes d'épaule d'agneau, par exemple. Dans ce cas-là, on garde à peu près le même temps de cuisson.
Oui.
Soit du poulet. Et dans ce cas-là, il suffit de diminuer la cuisson, c'est tout.
Elle est tout à fait séduisante, cette recette. On va voir qu'elle a vraiment une influence indienne. Plus que ça, elle est indienne. Expliquez-nous un peu le principe de cette recette.
Alors, le principe, c'est un genre de curry, en fait, puisque curry désigne dans la cuisine indienne n'importe quel plat en sauce avec un mélange d'épices.
Oui.
Et avec une base de yaourt, puisque certains curry ont une base de lait de coco, d'autres ont une base d'eau, tout simplement, ou de bouillon. Mm-hmm. Et là, la base, c'est le yaourt. Le mélange d'épices, donc, on retrouve de la cardamome verte, oui. De la cannelle, des graines de coriandre, de cumin, mm-hmm. de gingembre et du piment. Oui. Et plusieurs de ces épices dans la tradition asiatique sont considérées aphrodisiaques puisque ce sont des épices échauffantes qui provoquent une sensation de chaleur, qui provoquent un afflux de sang.
On imagine mécaniquement
effectivement
ce que ça peut
provoquer. Donc voilà, cardamome, girofle, cannelle, piment, écumin et gingembre, bien oui. sûr, ont tous... Alors bon, après, est-ce que vous aurez des résultats immédiats? Ça, je ne vous garantis rien. C'est une recette traditionnelle, donc ça n'est pas moi qui l'ai inventée.
On n'est pas dans des
je
promesses
de
bonimenteurs
rapporter,
ce matin. Ouais. On est plus effectivement dans la description d'un contexte culturel, et notamment en Asie, puisque la cuisine aphrodisiaque a des racines très lointaines. Mais là, sur cette recette, en tout cas, on peut au moins garantir une chose, c'est qu'elle est très bonne.
Elle est agréable à déguster, contrairement à des tas d'autres recettes aphrodisiaques qui sont franchement plutôt médicinales, et vous vous boucheriez le nez avant de les ingurgiter, parce que on peut dire que dans ce domaine, l'imagination masculine en particulier est sans limite. Et ouais. certains ingrédients sont franchement répugnants.
Absolument. On va voir ça tout à l'heure. Racontez-nous le déroulé un peu de cette recette. On commence par faire chauffer un peu d'huile dans un faitout.
Voilà, où vous pouvez utiliser du ghee. Ça,
très bien, bonne idée.
Tout à fait,
beurre
utiliser
clarifié.
Du ghee. Certaines régions de l'Inde utilisent plus de l'huile de moutarde, etc. Mais mm-hmm. bon, utilisez du ghee, donc,
d'accord.
si vous en avez. Faites dorer les oignons émincés, saisissez les morceaux de viande que vous choisissez, lapin, agneau, poulet.
On les fait donc colorer, dorer.
Voilà, et puis verser du yaourt. Alors après, bon, je ne le mentionne pas, mais c'est évident, si vous pensez que ça manque de liquide, rajoutez un peu d'eau, c'est tout. Quand on fait
d'accord.
la cuisine, c'est au feeling aussi, hein. Il faut savoir quand c'est un peu sec, quand c'est...
On choisit quel type de yaourt, on aura envie de dire
un yaourt entier.
D'accord.
Un yaourt nature, au lait entier, aucune... oui, voilà.
Parfait.
Évidemment pas sucré. Hein.
D'accord.
Donc vous laissez, vous couvrez, vous laissez mijoter... 25 minutes si c'est du lapin ou de l'agneau. Mmh. Pendant ce temps, vous faites une pâte d'épices avec le gingembre frais que
oui.
vous aurez pelé. Vous pouvez commencer avec un éplucheur pour les parties faciles à peler avec un éplucheur, mais mmh. vous allez remarquer il y a des tas de petites anfractuosités qui ne sont pas évidentes. Dans ce cas-là, prenez juste une petite cuillère en métal,
une petite cuillère à café.
Ça marche, c'est magique.
C'est vrai que j'utilise souvent, moi, personnellement,
avec la petite cuillère.
Un économe, mais on gagne beaucoup de chair.
Ça, ouais. Et avec un éplucheur, on finit par arracher toutes les anfractuosité et les jeter à la poubelle plutôt que de se donner du...
Et là, vous le grattez simplement avec la cuillère.
Gratter avec la cuillère, on passe la petite cuillère dans les creux.
Il y a aussi la pointe d'un couteau, mais c'est fastidieux. Donc vraiment,
oui.
la cuillère, c'est le très bon truc pour...
ça marche très très bien.
Donc, épouser le relief du gingembre.
Oui. Alors, vous coupez donc ce gingembre en lamelles, ou mm-hmm. vous pouvez le râper.
Quelle
avec
quantité
une...
Parce que c'est pas évident, le gingembre.
Je mets 10 lamelles, mais encore une fois, vous savez, les épices... Bon, on est bien obligé, quand on donne une recette, de mettre des quantités, mais... C'est aussi un peu au feeling. Hein. On n'est pas vraiment à une demi-cuillère à café près.
Sachant que là, vous ouais. raisonnez à peu près pour 4 personnes, hein, ce plat.
Oui,
d'accord.
c'est ça.
On n'est pas dans un tête-à-tête.
Donc là, j'ai mis un piment vert, mais encore une fois, là, c'est à volonté le piment. C'est comme vous le supportez.
Ouais.
Si vous voulez qu'il soit quand même un peu moins chaud,
oui.
vous enlevez les graines et les filaments qui contiennent la majorité de la capsaïcine, qui est la substance piquante, justement irritante du piment.
Ah oui, qui chauffe les papilles.
Un détail, le piment n'est pas soluble dans l'eau, donc ça ne sert absolument à rien de boire un grand verre d'eau quand vous avez la bouche en feu. Mmh. Il vaut mieux prendre, comme font les Indiens, du lassi, qui est à base de yaourt, puisque un liquide gras, par contre, vous aidera à vous débarrasser du feu du piment.
Mmh.
Dans la pâte d'épices, vous avez aussi 2 gousses d'ail,
oui.
Des graines de coriandre, une cuillère à soupe là, dans ce cas, des graines de cumin qui sont aussi une épice digestive et échauffante, c'est la famille des ombellifères, donc comme toutes les ombellifères, comme l'anis, le fenouil, mm-hmm. le carvi, elles ont les mêmes propriétés.
D'accord.
Également, intéressant, des propriétés carminative, c'est la façon élégante de dire qu'elles évitent les flatulences quand vous mangez des légumes secs. Donc, on recommande absolument une grosse cuillère de graines de cumin ou autre, ou carvi ou fenouil, quand vous faites cuire vos lentilles, vos pois chiches.
Il n'y a rien contre le rhume dans cette recette.
Bah, écoutez, le gingembre.
Le gingembre.
Voilà.
Oui, oui. Petite décoction de gingembre, là. Vous faites bouillir vos lamelles de gingembre et quelques clous de girofle aussi. C'est désinfectant et. Excellent.
Mais vous savez qu'une petite tisane de gingembre, c'est mon ami Florent Billou qui est juste à côté présent dans ce studio, qui m'expliquait que c'est absolument radical. Quelques lamelles de gingembre frais bouillies dans de l'eau, je peux vous assurer que votre rhume, il dure à peu près 2 heures.
Merci docteur.
Et continuons, il y a les amandes.
Et les amandes
oui. Les amandes, elles sont ébouillantées, débarrassées de leur peau brune.
Voilà, si vous êtes flemmard, franchement, vous prenez des amandes déjà émondées.
D'accord.
Vous pouvez même, à la limite, prendre des amandes en poudre, mais donc quand même, c'est moins frais, quoi. C'est moins, les amandes fraîchement moulues sont plus intéressantes.
D'accord.
J'ai confondu. Dans cette recette-là, on ne moue pas les amandes. Les amandes sont mélangées entières.
D'accord.
Voilà. Donc, je confonds avec d'autres recettes style korma où les amandes sont en poudre.
On vous pardonne. Et alors, donc, comment se constitue cette recette? Il y a effectivement la viande qui a coloré dans le faitout avec l'huile,
voilà, avec
etc. Les épices, le yaourt.
Une partie des épices entières, donc les cosses de cardamome verte qu'on a simplement fendues pour que les graines brunes qui sont à l'intérieur, qui sont très aromatiques, dégagent leur arôme.
D'accord.
Des clous de girofle et un bâton de cannelle. Donc, faites attention après quand vous consommez le produit fini de ne pas avaler toutes les épices entières parce que c'est quand même.
Dans une autre casserole, on a fait revenir les clous de girofle, la cannelle, les gousses de cardamome fondues, donc effectivement avec au contact de la chaleur, les épices évidemment dégagent leurs arômes.
Rajoutez la pâte d'épices à,
et on rajoute la
à
pâte
tout
d'épices.
Ça. Puis le lapin qui a déjà bien revenu avec le yaourt.
C'est ça.
Vous mélangez le tout et vous poursuivez la cuisson assez longtemps, donc à peu près 45 minutes. Mm-hmm. Et un peu avant la fin de la cuisson, vous mélangez les amandes. Donc cette recette sera sur le site web, c'est pour ça que je n'ai pas vraiment détaillé les...
Absolument, si vous l'avez quand même, on peut dire détaillé, mais c'est très intéressant parce que c'était une vraie leçon de propriété médicinale des épices. Effectivement, la recette de lapin au yaourt et aux amandes à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. À noter, intéressant, vous parliez de piment. C'est vrai que les piments, et vous le faites remarquer dans votre petit livre La cuisine aphrodisiaque, ils ne figure pas dans les manuels chinois de l'époque Tang, ni dans les recettes du Kama Sutra, et pour cause.
Et pour cause.
Le piment est finalement un
produit du Nouveau Monde.
Assez
donc
récent.
Évidemment, n'est apparu, n'a été diffusé en Asie que vers le XVIe siècle, où par contre il s'est répandu là vraiment comme une traînée de poudre et il a pris. Maintenant, il est absolument indissociable de la cuisine thaïlandaise en particulier, qui en fait une consommation effrénée, coréenne avec les kimchi qui sont très très.
Absolument. Et la cardamome est effectivement aussi importante dans cette recette, sachant qu'on dit cardamome alors qu'on entend souvent cardamone, et c'est une erreur. Elle est intéressante sur le plan gustatif, cette épice qui apporte à la fois, je trouve, de la chaleur et de la fraîcheur. Il y a des notes un peu camphrées, en même temps assez acidulées, un peu citronnées.
Oui, c'est vraiment un parfum très caractéristique, la cardamome. Il faut acheter de la cardamome verte et pas les espèces de grosses gousses qu'on appelle cardamome noire, mais en fait ne sont pas une famille de cardamome, mais sont aussi utilisées dans la cuisine indienne pour d'autres usages. Mais la plus fine et aromatique, c'est évidemment la cardamome verte, qui contient ces petites graines brunes qu'on peut donc piler au mortier.
Absolument.
Et utiliser moulues, ou bien mettre, moi j'en mets tout le temps dans mon riz au lait par exemple, des graines de cardamome,
c'est
délicieux. Et de temps en temps, vous avez la dent qui craque sur une graine. Soit dit en passant, c'est excellent pour se débarrasser de l'odeur d'ail cru, du goût d'ail cru dans la bouche. Vous croquez quelques graines de cardamome.
Et la cardamome aurait des propriétés apaisantes et augmenterait, là encore, l'afflux sanguin, d'où sa propriété est naturellement aphrodisiaque. Merci beaucoup.
Oui, provoque aussi une contraction des muscles du périnée qui peut servir dans certaines
maladies.
Mais ne pas en abuser parce que c'est mauvais pour le cœur.
D'accord.
Si
donc
vous
on y va tout à fait mollo si on ne veut pas mourir d'une crise cardiaque pendant je ne sais quelle occasion. Merci beaucoup Maïte Foulkes. On se retrouve dans un instant pour d'autres recettes évidemment. On verra Elvira avec sa petite revue de presse. Il y aura également un reportage à l'atelier des chefs pour cuisiner en couple. C'est l'événement musical sur France Inter. Un joli cadeau de notre programmateur musical Djoubaka. Benjamin Biolay, son retour. Palermo Hollywood.
Un coup de coude, alors je monte dans un taxi qui me dit de fumer. Cathédrale, le Moudre, San Lorenzo, Mar del Plata, Salta River, Tigre Boca, Farinelli, Recoleta, le bon Dieu te reconnaîtra.
Dîner romantique, si on ne veut pas être complètement claqué après, ça ne va pas être quelque chose de lourd.
Donc plutôt léger.
Plutôt léger, mais au-delà de ça, c'est plutôt le cadre qui compte, plutôt l'ambiance, des fois le fait de cuisiner ensemble.
Ils cuisinent ensemble pour pimenter leur vie de couple et ils apprennent même à cuisiner ensemble à quatre mains, à l'Atelier des Chefs par exemple, une école de cuisine fondée en 2004 par les frères Bonpoil, avec aujourd'hui quand même 16 antennes, hein, 16 ateliers à Paris mais aussi dans de nombreuses villes de province, également à Londres et à Dubaï. C'est vous dire le succès de cet organisme qui fait des cours de cuisine. L'Atelier des Chefs organise des cours spéciaux Saint-Valentin. On a voulu aller voir si c'était du bluff ou si c'était un peu sérieux cette histoire. Notre reporter Lénora Krief a assisté hier, samedi, à une leçon de cuisine amoureuse.
Alors, pour ce tartare de saumon, on a dans notre petit panier des pavés de saumon, des échalotes, citron vert, menthe, agrumes, on a de l'orange. On va venir faire un sirop d'orange avec le zeste et le jus qu'on va venir faire réduire. On va ajouter un peu de wasabi et de la menthe. Cette vinaigrette, on va la monter à l'huile d'olive. C'est ce qui va faire notre tartare. D'accord ? Allez-y, vous pouvez commencer. Vous avez vu, je vous ai bien montré et j'ai fait exprès. On a pris du temps pour la démonstration, mais après, je tourne autour des tables hein, et comme ça, je vous montre et je vous rectifie les mauvais gestes ou ce genre de choses ou les choses que vous n'aurez pas compris. On commence par l'orange, comme ça, moi, je peux lancer la réduction d'orange.
Ça travaille, là.
Oui, ça travaille. C'est le deuxième cours, mais celui-là, il est plus particulier, il est sur le thème de l'amour, n'est-ce pas ?
Alors, justement, sur le thème de l'amour, est-ce qu'il y a des menus qui se prêtent plus à un dîner amoureux ?
Moi, je crois pas, en fait. Hein. Ce qui compte, c'est l'intention qu'on y met. Hein. C'est-à-dire que si on a envie d'aller faire le marché, d'acheter des beaux produits, et que même si la recette n'est pas très sophistiquée, ce qui est important, c'est l'intention qu'on y met. Mais après, il n'y a pas de dîner qui est meilleur qu'un autre pour la Saint-Valentin.
Alors pourtant, je vous entendais un peu parler du menu d'aujourd'hui. Vous avez proposé notamment un plat avec des épices comme le wasabi. Il y a des notes d'agrumes. Est-ce que c'est parce que c'est plus vivifiant, tonifiant ? Est-ce qu'il y a tout ça qui compte quand même ?
Non, je pense que tout le monde se prête au jeu. Quand on vient à un menu autour de la Saint-Valentin, on a envie de choses un petit peu aphrodisiaques, de choses un petit peu originales hein, ou ce genre de choses. Donc effectivement, le wasabi aura peut-être un côté un peu comme le gingembre. D'ailleurs, il n'y a pas de gingembre aujourd'hui. Mais bon, du chocolat, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Hein. C'est vrai que...
Oui, on n'a pas évité le dessert au chocolat.
Bah oui, alors on dit que c'est aphrodisiaque, mais c'est surtout, moi je trouve, réconfortant. Enfin, je veux dire, c'est du cocooning, on est là pour se faire du bien. Et c'est vrai que l'amour, ça tourne aussi autour de ça.
Je vois très sérieux, très concentré.
Non, je me souviens plus trop comment on coupe le radis, j'avoue.
Bah, votre femme a l'air de bien s'en sortir.
En deuxième cours.
Un cours dans le cours.
Ouais, un peu.
Ouais, c'est ça.
En fait, vous venez ici pour éduquer un peu votre mari à la cuisine.
C'était mon idée.
Ah. Alors justement, le menu là en question, est-ce que vous le trouvez plus romantique qu'un autre ?
Bah, chocolat, ouais, ça l'est toujours. Après, je pense qu'on n'a pas tout vu, parce qu'il y a le foie gras et le poulet, là, la dinde, on sait pas ce qu'on va faire avec. Je pense que tout peut être romantique, même des pâtes, si elles sont bien faites. Je pense que peu importe les ingrédients, c'est surtout le contexte, comment c'est fait, avec amour surtout.
Et puis ça fait une activité à deux. Finalement, c'est assez rare dans la vie de tous les jours de cuisiner à deux pendant un certain temps, etc. On n'a pas forcément le temps.
Quand... Cuisiner rarement tous les deux.
Très très rarement.
Mais... Là, c'est un peu une première.
Pas vraiment, mais ça se compte sur les doigts d'une main quand même, en 12 mois de relation, on va dire. Donc ouais, c'est assez rare.
Et parce que le plaisir, finalement, est-ce que c'est de cuisiner pour l'autre ou bien est-ce que c'est de cuisiner à deux aussi ?
à deux. Enfin, pour moi, c'est à deux, en tout cas.
Oui, oui, c'est à deux aussi, ouais. C'est passer du temps ensemble, à faire quelque chose qu'on va apprécier ensemble, sur lequel on pourra échanger, voilà.
Les noix, ça va avec les radis. Et le rouge que vous allez faire.
Est-ce que ça avance de ce côté-là?
Ça avance. Bon, j'ai loupé le premier oignon, mais là, ça avance.
Vous y reprenez, là. C'est le deuxième?
C'est le deuxième, donc j'espère faire mieux.
Et vous cuisinez un peu à la maison?
Oui, oui, je cuisine à la maison. C'est même moi qui cuisine plus à la maison que madame. Et oui, c'est moi qui cuisine. On cuisine tous les deux à la maison.
Ne vous ratez pas sur cet oignon. Hein.
Comment ça se passe? Allez, je vous laisse 5 petites minutes pour finir. Comme ça, on passe sur la palotine de volaille.
Vous êtes le premier à avoir terminé, là.
C'est moi le chef. Top chef.
Alors vous aussi, vous êtes venu en couple.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Vous avez eu l'idée de prendre un cours de cuisine pour la Saint-Valentin.
Plutôt ma chérie qui a eu cette idée-là, et moi je l'ai suivi volontiers. C'est la première fois, donc c'est vrai que c'est une expérience. Au niveau cuisine, on est des nouveaux. Bon après, c'est des produits assez simples, donc ça c'est sympa. Donc on va essayer de reproduire ça, on essaiera de...
Je reproduire là pour la Saint-Valentin demain ou un autre jour?
Non, pas forcément, non. Non. Tranquille la Saint-Valentin. Mais plus avec des amis et tout, ouais. Ouais. À ce moment-là, des bonnes idées.
Un reportage de Lénora Krief à l'atelier des chefs, donc pour des cours de cuisine qui, semble-t-il, sont assez sérieux, avec leçon de cuisine suivie d'une dégustation avec la quinzaine de participants autour d'une table d'hôtes. Vous pouvez en savoir plus sur le site www.atelierdeschefs.fr, sur franceinter.fr à la page On va déguster. On a évidemment mis toutes les informations. Mindfulks, cuisiner à quatre mains comme une occasion d'instaurer un peu plus de complicité dans le couple, est-ce que ça vous paraît être une méthode efficace?
Oui, pour l'avoir essayé moi-même, je vous garantis que ça marche très très bien.
Cuisiner à deux, c'est vrai que souvent la cuisine c'est une question de territoire. On a souvent tendance à penser que soit c'est l'homme ou l'un des deux, parce que ça peut être un homme et un homme ou une femme et une femme, mais l'idée qu'en général on a son territoire et on veut pas trop d'ingérence extérieure.
Ben c'est vrai qu'on peut avoir chacun ses spécialités, je sais que c'est le cas chez nous. Mon mari est plus rôtisseur, plus scientifique quand il fait la cuisine, il aime bien avoir tous les gadgets et adapter des principes presque de chimie. Moi c'est plus au feeling, c'est plus les épices, les mijotages, les choses comme ça. Donc on a chacun nos spécialités, on se marche pas sur les pieds, ça fonctionne.
Très bien. Mindful, c'est ce que vous buvez en couple, un thé aux épices, l'influence indienne?
Pas seulement du thé aux épices, je dois dire. Il nous faut quelque chose un peu plus fort que ça parfois.
Évidemment.
Mais cette potion, oui, à l'occasion du chai, oui.
Du chai.
Donc, il y a ce thé au lait sucré et épicé, oui, qu'on fait en Inde.
Qui est revigorant. Et pour le faire à la maison, il y a une méthode qui est pas très compliquée avec des épices qu'on peut trouver finalement assez facilement. On fait bouillir 50 centilitres d'eau, c'est cela?
Oui, pour deux personnes, donc ça vous fait à peu près deux mugs comme taille.
Ouais,
avec du sucre. Alors vous pouvez prendre de la cassonade pour que ce soit plus rustique, disons. Oui. Du thé d'Assam ou de Darjeeling.
Oui.
Et donc du thé noir. Et puis vous rajoutez des épices entières, des 6 grains de poivre noir, 4 clous de girofle, oui, 2 capsules de cardamome verte fendue.
La revoilà, cette cardamome.
La revoilà. Un petit bâton de cannelle, oui, cannelle indienne, hein, pas, oui, la casse qui est beaucoup plus grossière. Une lamelle de gingembre frais et une cuillère à café de graines de fenouil, 10 centilitres de lait. Et vous faites bouillir et vous laissez frémir 20 minutes à couvert tous ces ingrédients. Puis vous éteignez le feu et vous laissez infuser encore 10 minutes.
Oui.
Vous ajoutez le lait seulement à ce niveau-là. Le lait ne vient qu'à la fin.
D'accord.
Vous filtrez et vous servez. Voilà, dégustez chaud.
C'est délicieux.
Et on a ouais, ce thé aux épices particulièrement échauffant, ouais, revigorant et évidemment bon pour la santé. L'impression générale qui se dégage de votre petit traité Mindful, c'est que... On a quand même le sentiment dans ces cultures asiatiques des origines que l'aphrodisiaque est là un peu comme, pour dire les choses vulgairement, un truc de macho qui flatte la virilité masculine et qui finalement range la femme dans un statut de, on va pas dire d'objet, mais en tout cas c'est vraiment la virilité, c'est le sexe masculin qui est privilégié dans ces fortifiants. Est-ce que vous êtes d'accord?
Alors, oui et non, parce que les Chinois donnent une explication au fait qu'ils se préoccupent surtout des hommes, c'est que Pour les Chinois, donc, l'acte sexuel, c'est l'union du yin et du yang. Oui. Le yang étant le principe masculin, le feu, la lumière, l'été. Mm-hmm. Le yin, c'est l'ombre, l'obscurité, la lune, la femme. Donc l'union de ces deux éléments est essentielle à la bonne marche du monde. Ça prend vraiment une dimension cosmique.
On pourrait résumer le yin et le yang sans trop le caricaturer, un versant plutôt féminin et un autre plutôt masculin.
Ah oui, complètement.
Et c'est valable du coup également, c'est déclinable évidemment, entre guillemets, dans les marmites.
Oui, puisqu'il y a des nourritures yin qui sont plus considérées comme refroidissantes et les nourritures yang sont celles qui sont échauffantes et donc aphrodisiaques, qui stimulent les reins, puisque pour les Chinois, les reins sont le siège de l'activité sexuelle, commandent l'activité sexuelle, mm-hmm. disons. Donc il est important que les essences yang de l'homme soient constamment fortifiées, alors que celles de la femme, les essences yin, sont elles considérées inépuisables, ce qui pourrait expliquer qu'on ne donne pas tellement de recettes pour les femmes.
C'est ça.
Sauf pour la stérilité, des choses comme ça.
Mais alors c'est vrai que les Chinois sont passés maîtres en matière de volupté, c'est absolument spectaculaire. La richesse de la pharmacopée chinoise, et qui date vraiment de millénaires. Vous faites une typologie entre deux familles, on va dire, d'ingrédients dans cette pharmacopée. On est obligé d'être forcément, pour être vulgarisateur, un peu schématique. Il y a des substances qui ont effectivement, dites-vous, un effet tangible sur l'organisme, et d'autres substances dans cette pharmacopée chinoise qui relèvent davantage, on va dire, de la magie ou d'une forme de superstition.
Oui, absolument. Il y a toute une partie, y compris les épices et certaines drogues prises en petites quantités qui sont excitantes, échauffantes, hallucinogènes, désinhibantes, etc. Bon, y compris l'alcool d'ailleurs. Et puis, il y a un catalogue d'objets de substances qui, plus elles sont rares, chères ou répugnantes, on dirait que c'est ça en fait qui suscite presque l'excitation. Parce que quand vous prenez de la bouse d'éléphant, de la bave de crapaud, des perles grillées ou la fameuse corne de rhinocéros qui n'est autre que de la kératine, c'est-à-dire c'est la même substance que vos ongles et vos cheveux. Si vous vous rongez les ongles, vous avez le même effet que si vous mangez de la corne de rhinocéros en poudre. Le pénis de tigre séché, les bois de cerf aussi.
Et là, en l'occurrence, malgré les études scientifiques qui ont contredit la réputation aphrodisiaque de ces produits, rien n'y a fait. C'est des produits qui continuent à avoir un fort succès et qui sont plébiscités.
Ah mais oui, c'est effarant parce que ça met vraiment en danger des espèces en voie de disparition, mmh. comme les tigres et évidemment les rhinocéros, puisque le braconnage de rhinocéros ne fait qu'augmenter, c'est exponentiel. Et on va même, il y a eu des braquages dans plusieurs musées en France pour voler les cornes des spécimens empaillés. Donc maintenant, on les remplace par des copies dans les vitrines.
Le cas du ginseng, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler en Occident depuis une bonne vingtaine ou une trentaine d'années. Cette racine assez particulière qui a une tige d'une soixantaine de centimètres. Alors une racine impressionnante jusqu'à un mètre de long avec d'ailleurs une forme vaguement humaine qui peut aussi contribuer à son attrait.
C'est vrai que toutes ces racines anthropomorphes ont toujours eu une réputation un peu magique, comme la mandragore en Occident. Mm-hmm. Vous savez, il y avait cette légende, on disait qu'il fallait les cueillir sous les gibets des pendus parce que le sperme des pendus les rendait particulièrement magiques. Et quand on les arrachait à la terre, elles poussaient un cri. Bon, il y a la même chose pour le ginseng. Le ginseng est censé pousser un gémissement quand on l'arrache à la terre. Et c'est une racine qu'on trouve essentiellement en Corée. Ce sont les plus prisés. Le ginseng, pardon, sauvage de Corée. Maintenant, on est obligé de le cultiver parce que le ginseng sauvage a été absolument décimé
Il y a une demande planétaire en plus.
Mais les racines sauvages vieilles de deux siècles, par exemple, peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros.
Alors, c'est à ce point-là. Le bien fondé de ces croyances, est-ce que des scientifiques se sont penchés évidemment sur les propriétés du ginseng?
Ils se sont penchés sur le ginseng puisque vous ne pouvez pas rentrer là dans un magasin de naturopathie ou bio sans voir des tas de produits dérivés du ginseng. Donc il y a quand même une réputation comme fortifiant. Et effectivement, on a trouvé que le ginseng contient beaucoup de substances. Bon, je ne suis pas chimiste, mais des saponines alcaloïdes, les ginsénosides, et des vitamines, des oligo-éléments, des hormones végétales, des acides gras, des tas de choses qui en font un revitalisant, un tonique.
Stimulant musculaire, manifestement.
C'est ça, oui, un tonique, un stimulant du système nerveux aussi,
et
apparemment.
Ça a quel goût? Ça se cuisine?
Et c'est ça qui est intéressant. J'allais poser cette question.
Ça n'a pas beaucoup de goût. C'est un peu sucré, légèrement amer, mais c'est subtil comme goût, donc ça n'est pas vraiment un ingrédient très intéressant.
Ça se présente comme du gingembre ? C'est une racine ?
Ça se présente comme une racine, c'est la couverture de mon livre en fait, vous voyez cette... voilà. On dirait une presque qu'il y a des membres humains, les espèces de radicelles attachées.
Une espèce de pieuvre végétale, pourrait-on dire, surmontée de feuilles vertes qui ressembleraient presque à des feuilles de mûrier, avec d'ailleurs une petite baie qui ressemble à une framboise. Hein. C'est le ginseng tel qu'il est stylisé
mais
sur votre
vous en verrez rarement, vous verrez rarement la racine entière, c'est bien trop cher. Vous le trouverez sous forme séchée, pulvérisée. Sous forme de thé, de pilule. Les Coréens en raffolent, ils en mettent même dans leur dentifrice.
Il est temps de feuilleter le courrier du cœur avec Elvira Masson.
C'est dimanche sur France Inter. On va déguster.
Aujourd'hui, 14 février, il y a ceux qui se fichent de la Saint-Valentin, ceux qui sont allergiques.
Comme vous.
Allergique, non. Je m'en fiche un peu.
D'accord.
Enfin, je suis quand même ravie d'être là. Et les autres? Alors, je ne sais pas quelle catégorie est dominante. En revanche, j'en sais un peu plus sur les pratiques de ceux qui vont la fêter à la Saint-Valentin. Dans une étude menée par le site de réservation de restaurant lafourchette.com, publiée mercredi dernier, dont le site gastronomique ataboula.com se fait l'écho, on apprend plein de choses. Seuls 17% de ceux qui fêtent la Saint-Valentin, j'entends. Je ne sais pas combien de personnes ça fait en France. Seuls 17% d'entre eux prépareront un dîner romantique à la maison. On me dit qu'avec le succès des livres de cuisine, avec le succès des émissions de cuisine à la télévision, 17%, c'est assez chiche, je trouve. 19% se contenteront d'offrir des fleurs. Mais on ne sait pas s'ils ne vont pas se nourrir du tout. Ils offrent des fleurs et c'est tout.
On peut aussi les manger, les fleurs.
Oui, peut-être. Voilà. 62% iront au restaurant. Donc c'est vraiment quand même... la principale activité festive.
Même quand le 14 février tombe un dimanche.
Et ouais, alors je ne sais pas comment ils vont faire.
Je crois qu'il y a des restaurateurs qui d'ailleurs font un effort pour exceptionnellement ouvrir, sachant que c'est quand même une opportunité commerciale pas négligeable.
Ouais.
Sait-on quel type de restaurant, justement, a les faveurs des amoureux ?
Plus de 30% vont choisir un restaurant de grand chef, donc ça veut un peu tout et rien dire. Qu'est-ce qu'on appelle grand chef ? Est-ce que c'est chef étoilé ? Est-ce que c'est chef qui a une notoriété locale ? 49% vont choisir une adresse française, traditionnelle.
D'accord.
Et 61% une adresse romantique, donc avec, on imagine, tout le décorum qui va avec.
Quel budget ?
Le budget, pratiquement pour la moitié, les Français dépenseront en moyenne entre 25 et 50 euros par personne.
D'accord.
Un plus faible pourcentage dépensera entre 50 et 100, et seuls 9% envisagent de casser la tirelire, vraiment de manière assez spectaculaire.
C'est-à-dire en dépassant le billet de 100 euros. Quoi.
Ouais, exactement.
Wow.
Et la vraie question, qui paye ?
Qui paye, oui, ça paye. C'est...
Alors là, j'étais assez surprise. 95% des hommes interrogés considèrent que c'est à eux de sortir la carte bleue. Je trouve ça quand
Qu'est-ce que vous pensez de cette galanterie, Elvira ?
Mais je sais pas, voilà, je sais pas quoi en penser. Je sais pas si c'est de la galanterie, si c'est rétrograde. Ouais. C'est un peu entre les deux.
C'est
quoi.
Ambigu comme réflexe.
Alors 58% des femmes sont d'accord pour être invitées, donc c'est pas tant que ça. 20% préfèrent diviser la facture en deux. Ça c'est quand même pas. Je sais pas ce que vous en pensez de ça, la pratique.
Ouais, pour le coup, soit c'est l'un, soit c'est l'autre, trouve que le partage en deux un soir de Saint-Valentin, c'est quand même pas très romantique.
Si mes soustractions sont bonnes, ça ne fait plus que 22% des femmes qui considèrent que c'est à elles d'inviter.
Donc c'est une minorité.
Rien ne change, tout change et rien ne change.
On va dire que c'est bien comme ça. Et sinon, une proposition pour ceux qui ne voudraient pas dîner au restaurant.
Alors là, c'est une proposition assez saugrenue. Time Magazine, qui est pourtant un hebdomadaire américain assez sérieux, nous suggère dans un article du 11 février 8 manières pas cucu de fêter la Saint-Valentin, parmi lesquelles dîner d'un petit déjeuner. Alors je vous explique. Plutôt que de vous sentir obligé de vous lever là maintenant, il est déjà assez tard pour préparer le petit déjeuner à votre douce moitié, vous auriez dû, dès hier, préparer de quoi vous faire livrer le petit déjeuner ce matin. Alors, on est bien aux États-Unis parce que moi, je ne sais pas comment me faire livrer mon petit déjeuner à Paris. Et plutôt ensuite que de vous livrer dans la journée à de fastidieux préparatifs pour un dîner spectaculaire, préparez plus simplement de quoi faire un brineur. Donc, c'est un nouveau mot, le brineur.
Oula,
atroce.
Je crains le pire.
La contraction de breakfast et dinner.
Ben voyons.
Soit, à mon sens, un mot encore plus laid que brunch.
Qui était déjà lui assez atroce.
Serait composé de pancakes, d'omelettes, de bénédictes. Que vous serviriez à votre mari, fiancé ou je ne sais quoi, au lit, à la place du dîner. Donc là, j'avoue, je ne comprends pas du tout le concept d'être au lit à 20h30, d'avoir pris deux petits déjeuners dans la même journée. Enfin, c'est comme le jour sans fin, on n'en finit plus.
Ils ne savent plus comment remplir leur colonne, les journalistes de Time.
Ça m'a laissé un peu interdite.
Ok, merci pour cette information essentielle, Elvira. On est vraiment ravis. Je pense que ça peut faire la une de nos journaux dans peu de temps. Et surtout, que boit-on au cours de ce petit déjeuner, dîner, qui s'appelle donc un brineur ?
Donc un brineur au cours duquel on ne va quand même pas avoir une bouteille de vin. J'imagine qu'on boit du jus d'orange. Mais là, Dieu soit loué, Dominique, qui m'a formellement interdit de boire du jus d'orange le soir, a pensé à nous avec un avant-goût de ce dont il va nous parler la semaine prochaine, je crois. Je suis chargée de remplir vos verres, c'est fait, de ce Saint-Amour.
Eh ben, Saint-Amour, ben évidemment, voilà. Le Beaujolais, 100% Gamay.
100% Gamay, Saint-Amour vieille vigne 2013, le Mas des Tines de Jérémy Gilou. Saint-Amour, c'est le cru le plus septentrional du Beaujolais. Donc il est en Bourgogne.
Il est chouette.
Beaujolais en Bourgogne. Il est chouette, hein.
Ouais, c'est vraiment du velours. Du velours avec des belles notes de fruits rouges. On est même un peu confituré. Très très joli vin, qui est d'ailleurs servi en magnum, je pense. On a de quoi arroser un peu tout le monde.
On a de quoi arroser la France Inter tout entier.
Vous nous rappelez les références du vin?
Saint-Amour, vieille vigne 2013, Mas des Tines, Jérémy Gilou, 11 euros. Et Dominique nous en dira davantage la semaine prochaine.
Merci Dominique.
C'est quand même mieux que le jus d'orange,
Oui.
Pour un dîner de Saint-Valentin.
Ça, je suis assez d'accord. Pour un drineur, un quoi?
Un brineur.
Oh là là, un brineur. Alors ça, c'est vraiment... vous ne vous grandissez pas bien. Dominique Hutin, qu'on retrouve évidemment la semaine prochaine pour évoquer beaucoup plus, avec beaucoup plus d'expertise, les vins de Saint-Amour. Il nous reste une petite poignée de minutes, Maït Foulkes, pour évoquer peut-être le gingembre avec une recette d'origine cambodgienne d'un poisson à la vapeur au gingembre. Et ça me plaît. Le gingembre frais est quand même merveilleux dans ses notes poivrées, légèrement piquantes, très fleuries en fait. Hein, c'est vraiment des arômes très floraux.
Oui, et c'est une des recettes... aphrodisiaque, donc, que j'ai compilé, qui a le mérite d'être également mangeable, ce qui n'est pas le cas de toutes les recettes aphrodisiaques. On n'aimerait pas forcément les cuisiner pour des repas romantiques, justement.
Alors que celle-ci, elle fonctionne très bien. Comment on s'y
très
prend?
Très bien. Vous prenez un poisson blanc, hein, en filet. Et vous le faites cuire à la vapeur, c'est-à-dire, donc, vous mettez sur un bain-marie, soit un panier vapeur en bambou, soit un plateau en métal à trous de couscoussier, enfin, je vous apprends pas comment faire cuire à la vapeur.
Panier vapeur.
Et puis, vous faites par ailleurs revenir le gingembre pelé, je vous ai donc expliqué comment,
avec la cuillère.
Petite cuillère, et coupé en fin bâtonnet.
C'est ça, une petite julienne.
Oui. Et puis, vous ajoutez de la ciboule ou les oignons de printemps, hein, vous connaissez.
Coupés
en bâtonnets, oui, voilà, civettes. Qui est également, d'ailleurs, pour les Chinois, une herbe chaude, comme la ciboulette. Donc, ils l'arrangent aussi dans la liste de leurs aphrodisiaques. Mais cette recette-là est cambodgienne. Elle m'a été donnée par une cuisinière cambodgienne.
Oui.
Vous ajoutez au gingembre le tuk tray, qui est la sauce de poisson version cambodgienne, l'équivalent donc du nyok mam vietnamien.
On parle donc de la sauce poisson fermentée, qui a d'ailleurs une certaine odeur, mais qui est très très bonne dans les plats.
Oui, et puis un peu de sauce de soja, de poivre, de sucre et un peu d'eau pour diluer le liquide.
C'est ça.
Vous goûtez, vous rectifiez l'assaisonnement et avant de servir, vous arrosez les filets de poisson cuits à la vapeur.
Génial.
Avec cette sauce. C'est d'une simplicité.
Mais
il suffit de trouver un petit accompagnement, du riz blanc et puis une recette que vous pouvez choisir parmi les autres recettes aphrodisiaques du livre.
Une cuisine simple, saine, échauffante et qu'on peut accompagner de riz basmati, de riz blanc, pourquoi pas.
Oui, ou du riz parfumé.
Du riz parfumé.
Voilà. Et ça a le mérite aussi d'être léger puisque, comme le disait un autre de vos chroniqueurs, il ne faut pas manger trop lourd.
Tous à vos paniers vapeur pour cette recette de poisson à la vapeur au gingembre cambodgienne. Un poisson blanc, ça on a l'embarras du choix, ça peut être du lieu jaune, de préférence évidemment un poisson issu de stock durable. Maït Foulkes. Non mais jusqu'à la fin, je ne m'étais pas trompé.
C'est
Maït Foulkes, absolument, vous êtes marié, on peut le dire, à un anglais, Maït Foulkes. La cuisine aphrodisiaque, un petit traité nourri de nombreuses recettes, de références historiques, c'est aux éditions Philippe Piquier, il vaut vraiment la peine. Et je cite également, un livre en bonne place depuis quelques années dans ma bibliothèque culinaire, Le goût de l'Asie, encyclopédie de la cuisine asiatique. Toujours chez Philippe Piquier. La semaine prochaine, on est mince, un bulbe indissociable de la cuisine française. Vous allez tout savoir, ou presque, sur l'ail. Tiens, ça aurait pu être une émission de Saint-Valentin. Belle journée à tous à l'écoute de France Inter. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.